Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le dernier jour du mois de février, le 28 février 2022. Et autant vous dire que c'est pas la préoccupation principale de ce lundi matin. Ce lundi est donc déjà parti pour être Black Monday. Again, encore une fois, on va se faire exploser à l'ouverture. Forcément, ça commence à faire mal dans tous les coins. Les sanctions, les réactions de Monsieur Poutine. Le week-end aura été chargé. Et évidemment, on reste extrêmement concentré sur la thématique unique et principale de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est la seule chose qui nous préoccupe. Bon, il y a deux, trois trucs qui viennent autour, mais franchement, c'est secondaire. Tout est concentré autour de ça et tout est connecté autour de la guerre pour l'instant. On en parle tout de suite, on fait un peu le point, mais il n'y a pas grand chose d'autre à apporter comme sujet ce matin, si ce n'est que ça va faire très mal à l'ouverture. Les sanctions économiques. Alors, les sanctions économiques, c'est l'arme fatale pour l'instant. Et comme disaient certains politiciens européens, l'Europe se prépare à mettre en place la sanction économique équivalent à la guerre nucléaire sur la Russie. La coupée du réseau SWIFT. Alors, ça a été annoncé ce week-end. On hésitait. Les Allemands étaient pas super chauds parce qu'effectivement, la Russie pouvait encore leur couper le gaz qui risquait de les arranger moyen. Donc, du coup, il y a les sanctions SWIFT qui ont été prises. On sait pas encore exactement combien de banques vont être déconnectées du système SWIFT en Russie, mais en tout cas on parle de 70% des banques qui seraient sorties du marché, donc c'est énorme. Il va y avoir évidemment des énormes conséquences au niveau des échanges commerciaux internationaux, bien sûr. Entre autres, on parle même de la Sberbank qui devrait faire faillite parce qu'ils ont plus les moyens de pouvoir rendre l'argent qu'ils ont sur leur compte. En bref, c'est la catastrophe du côté financier. On parle même que la Suisse pourrait sanctionner et bloquer, geler les avoirs russes dans les banques en Suisse. On sait pas combien de temps la Russie pourra tenir la avec ce type de sanctions. On a aussi appris que les espaces aériens étaient interdits dans la plupart des pays occidentaux à toutes les compagnies et tous les avions immatriculés en Russie. Donc du coup, il y aura des conséquences là-dessus. Il y aura aussi des conséquences au niveau du tourisme, bien sûr, si ça venait à durer, puisqu'on voit aussi très bien que tous les pays qui ont supporté la crise du Covid pendant 2 ans, les pays qui vivent du tourisme, ils sont hyper contents de savoir que au moment où les Russes, les touristes russes allaient pouvoir revenir, non, en fait, ils pourront pas revenir. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont en train de partir en vrille, qui auront des conséquences non seulement sur la Russie, bien sûr, mais aussi sur le reste du monde, puisqu'indirectement, on va se couper d'une certaine clientèle, et donc il y aura aussi des conséquences de ce côté-là. Il faut pas le négliger. Mais en tout cas, pour l'instant, les sanctions, ce matin encore, si on lit le FT, il y a la liste des sanctions qui ont été publiées. Alors, si vous commencez à la lire, si je la lisais ici devant vous, dans cette vidéo, je pense qu'on sera encore en train d'en parler dans 35 minutes, donc ça ne sert pas à grand-chose, mais la liste des sanctions s'allonge, c'est énorme, et tout le monde, tout l'Occident est en train d'essayer de bloquer, on va dire, administrativement la Russie, puisque au niveau du militaire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que même si le président Zelensky a proposé des négociations de paix, c'est ce qui a un petit peu sauvé le marché en fin de semaine dernière, Poutine a pas vraiment l'air d'être parti dans le concept de la paix, puisque ce week-end il a encore monté la pression d'un cran en mettant le signal comme quoi il pourrait utiliser sa force de dissuasion nucléaire. Alors évidemment, quand on regarde un petit peu les communiqués de presse, les interprétations des spécialistes, des experts, les mêmes experts qui étaient experts en Covid il y a 3 semaines, qui sont devenus dorénavant expert en stratégie militaire russe, pense qu'effectivement c'est simplement du bluff, du bullshit, le fait que Poutine veut simplement montrer aux Européens et aux Américains que s'il commence à le chercher un peu trop, il a les armes pour faire peur pour eux, pour ces experts là. Donc ça reste une arme de dissuasion massive, en disant attention, je pourrais utiliser l'arme nucléaire. Donc, évidemment, personne n'en sait rien, personne ne comprend ce que Poutine a dans la tête pour l'instant, donc le risque est quand même relativement élevé. Ça ne plaît pas du tout au marché, et ça ne suffit. Le fait qu'on vienne nous dire que c'est juste du bluff, ça suffit pas vraiment pour rassurer les futurs ce matin, puisque les futurs ce matin se font littéralement déglinguer. C'est clair qu'on va ouvrir dans un bain de sang. Alors de nouveau, on parle de 3% de baisse sur le Nasdaq pour l'instant, 2,5% sur le S&P 500. Ça devrait ouvrir sec à la baisse. Ça a l'air d'être de nouveau parti pour un Black Monday assez violent de nouveau. Affaire à suivre, est-ce que à ce moment-là on va de nouveau vivre un truc comme jeudi dernier où finalement les algos, quand la vol est montée à 38-40%, sont arrivés et ont racheté le marché? C'est un petit peu ce qu'on a l'impression de vivre, parce que en tout cas les Asiatiques sont extrêmement prudents ce matin, puisqu'on voit que les indices asiatiques sont légèrement en baisse, mais pas aussi violemment que le sont les indices américains. Donc on est peut-être en train de se dire que peut-être ils vont nous refaire le coup de jeudi dernier. C'est en tout cas ce que les gens sont en train d'observer. Donc l'ouverture de New York tout à l'heure sera très très importante. Donc en gros, il n'y a plus grand chose d'autre à dire sur les marchés boursiers en général. Je vous parle depuis plusieurs jours de ces différents piliers du monde de l'investissement. Alors le pilier microéconomique, tout le monde s'en fout. Le pilier macro, peut-être qu'on va commencer à en parler demain et après-demain, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour l'instant, on est vraiment concentré uniquement sur qu'est-ce qui se passe là-bas. Et c'est la seule chose qui nous intéresse. La semaine dernière, on a bien tenu les niveaux qu'il fallait tenir. On va dire que c'était des reversals. Il reste à prouver, reste à confirmer maintenant que ça va continuer dans cette direction. Rien n'est moins sûr, on s'assure une volatilité monstrueuse ces prochains temps puisque tout le monde va réagir en fonction des news géopolitiques qui vont sortir ces prochaines minutes, ces prochaines heures, enfin durant toute la semaine de toute façon, parce qu'il est peu probable quand même que M. Poutine retire ses troupes, même si Zelensky a proposé des négociations de paix dans la région de Tchernobyl. Alors des négociations de paix dans la région de Tchernobyl, je demande si c'est vraiment un bon signe. En tous les cas, le marché est en danger, le marché se pose à nouveau des questions et la vol va repartir à la hausse de nouveau aujourd'hui. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle stratégie adopter dans cet environnement? Eh bien, c'est assez simple, à mon avis, il y en a deux. La première, c'est d'acheter sur faiblesse des titres dans lesquels on se sent à l'aise, dans lesquels on aimerait avoir dans son portefeuille durant les 5 prochaines années et profiter de ces opportunités pour les avoir à bas prix, en se disant qu'une fois que les choses seront réglées, en admettant que Monsieur Poutine se contente de conserver l'Ukraine et ne pas aller chercher la Pologne, l'Allemagne de l'Est et puis l'Autriche au passage, si on reste confiné dans cette région-là, eh bien, normalement, on peut espérer que les choses vont se calmer, même si à un moment donné, il y a un gouvernement fantoche qui est remis en place en Ukraine et que ça devient une espèce de succursale russe. À ce moment-là, on peut espérer que les choses vont se calmer et que le marché repartira dans un relief rally, un rallye de soulagement. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est de ne rien faire ou simplement de conserver ses positions et de se dire que de toute façon, quoi qu'on fasse, si jamais ça part vraiment en vrille, on aura bien d'autres soucis que les performances de nos portefeuilles. Donc la logique voudrait que sur faiblesse, on essaie de racheter un petit peu, mais ça va être très violent. Alors ceux qui veulent faire du trading, rentrez, mettez-vous des stop loss, ressortez si ça va pas, n'insistez pas parce que ça peut être vraiment extrêmement violent ces prochains jours, ces prochaines semaines. On l'a déjà vu la semaine dernière, mais comme c'est parti en ce lundi matin, ça promet pas de s'améliorer. On peut parler beaucoup de tout ce qui est en train de se passer, mais aujourd'hui, on a de nouveau encore une fois deux forces en présence, les Russes contre les Américains. Ça me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors de l'Europe qui brasse de l'air autour de tout ça, ce qui est une chose, mais à côté, vous avez quand même les États-Unis qui sont en train d'essayer de rouler les mécaniques à distance sans trop s'exploser. Vous avez un président américain qui est aux limites du grabataire, qui doit faire le discours de l'Union demain, mardi, donc le fameux discours de l'Union qui pourrait être un des discours de l'Union les plus importants de ces 20 ou 30 dernières années, on a une inflation qui est au plus haut depuis 40 ans, on sort d'une crise de Covid, apparemment la bonne nouvelle de tout ça, c'est que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, la crise du Covid a totalement disparu, mais en dehors de ça, il va devoir parler de tout ça, parler de son bilan qui est pas terrible aux États-Unis, il a une grosse pression politique aux États-Unis, et pour lui, ça l'arrange quand même de pouvoir mettre la pression le focus finalement sur l'Ukraine et la Russie, parce que pour l'instant, au moins, on ne voit pas les conneries que lui fait à domicile aux États-Unis. Donc, un discours d'union qui va être très important. Biden qui se doit de garder son statut de chef d'État et de redorer son blason. Et de l'autre côté, eh bien, un président russe, on ne sait pas trop où il veut aller et jusqu'où il est prêt à aller. Mais en tout cas, qui est prêt à aller très très loin, qui a déjà été très très loin par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et qui, visiblement, est difficile de cerner. Et il est surtout très difficile de savoir jusqu'où il est prêt à aller. Donc, par rapport à ça, on a vraiment ces deux forces en présence qui sont quand même un équilibre extrêmement délicat et extrêmement tendu pour l'instant, on va pas se mentir. Donc pour faire simple, aujourd'hui le marché est retenu en otage et puis on est tributaire des roulements mécaniques des uns et des autres. C'est uniquement le fonctionnement sur lequel on va vivre ces prochains jours. On doit parler aussi du baril de pétrole puisque les annonces de ce week-end ont fait que le baril est reparti. Donc vendredi, le rallye de soulagement qu'on a eu en fin de semaine a fait que le pétrole s'est pété la figure en direction des 91$ sur le WTI. Et puis en début de semaine, ce week-end, il est déjà reparti. Il traite autour des 96,50 ce matin parce que simplement de nouveau la crise, donc le pétrole qui va monter, on connaît l'histoire, donc tout le monde se stresse par rapport à ça. Ce qui est assez intéressant à voir au niveau du baril, c'est que il y a vraiment un enjeu énorme stratégique autour de ça. Pour l'instant, là, les tensions font monter le baril. Alors, d'un côté, vous avez de nouveau Monsieur Biden qui encourage tous les pays qui ont des réserves pétrolières à les ouvrir, à ouvrir leur robinet pour faire baisser le prix du pétrole. Ils sont même en train de trouver un accord avec l'Iran. Enfin, j'ai envie de dire, enfin de trouver un accord. Ils sont à ça de trouver un accord pour ouvrir les robinets de Téhéran pour que de nouveau, il y ait un peu plus de liquidité qui rentre sur le marché et qui fasse baisser le prix du pétrole. Donc, c'est dire à quel point ils sont stressés, à quel point le prix du baril devient un enjeu stratégique, non seulement pour la guerre, mais aussi pour le fait que l'inflation derrière va être est directement liquée. On commence à s'en rendre compte. On n'a pas envie, en tout cas aux États-Unis, de voir ce baril au-dessus des $100, clairement. Mais de l'autre côté, vous avez quand même les Chinois qui ont annoncé ce matin que eux, ils continuent à augmenter le volume de, et la taille de leurs réserves, c'est-à-dire qu'ils continuent à acheter du pétrole. Donc en gros, d'un côté, vous avez les Américains et les Occidentaux qui essaient de faire baisser le baril en balançant tout ce qu'ils ont en réserve, et les Chinois qui, eux, achètent derrière pour empêcher quelque part le prix du baril de baisser. Et donc, du coup, on voit bien que si ce n'est pas un immense doigt d'honneur que font les Chinois aux Américains, je sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs, il manquerait plus que les Chinois, ils envahissent Taïwan la semaine prochaine. Et puis, en deux mots, on peut aussi parler de l'or qui repart à la hausse. Alors, l'or aussi, c'était bien dégonflé, repassé sous les $1,900 en fin de semaine parce que ça s'est détendu. Et puis, ce matin, on vous parle de nucléaire. Alors, quand on vous parle de nucléaire, tout de suite, ah, il faut acheter de l'or parce que quand on va nous attaquer au missile nucléaire, je me sentirais beaucoup plus confortable avec une table de salon en lingots d'or, visiblement. Donc, l'or repart également à la hausse. On repart dans cette notion de valeur refuge. Refuge de quoi? Je sais pas trop, mais en tous les cas, c'est une valeur refuge et c'est la seule qu'on a, puisqu'avant on avait encore les espoirs que le Bitcoin soit une valeur refuge, mais visiblement c'est plus vraiment le cas depuis quelques temps. Le Bitcoin il traite dans un canal extrêmement étroit. Ce matin il est de nouveau en baisse de 2% autour des $37,000 et des poussières, mais en tout cas c'est plus du tout une valeur refuge. Le Bitcoin est devenu connecté au Nasdaq et il se comporte plus ou moins la même chose que l'indice technologique américain pour le moment. Et puis on va quand même parler d'autre chose, parce que c'est quand même un tout petit peu gonflant de parler uniquement de la guerre de Poutine, de l'Ukraine et des intentions, des sanctions et tout ce qu'il y a autour de tout ça. Il ne faut pas oublier quand même que la vie continue à côté. En tout cas aux États-Unis, on aura quand même le témoignage de Powell qui va parler devant le Congrès, le Sénat, enfin toute l'équipe de clowns à Washington, pour leur expliquer son sentiment et ce qu'il pense de l'avenir de l'inflation et qu'est-ce qu'il va faire éventuellement peut-être au niveau des taux. Alors bien évidemment qu'il va pas leur dire ce qu'il va faire lors du meeting du 16 mars par rapport au taux. On s'attend tous à une hausse de 0,5%. Ça, c'est l'état de fait aujourd'hui. Mais on commence, il y a quand même 2-3 voix discordantes qui arrivent en disant que peut-être, vu l'environnement, vu la tension économique, vu la confiance du consommateur qui est en train de se péter la figure parce que les gens, ils sont un petit peu sur les pattes arrière en disant je vais pas aller claquer du pognon s'il y a une guerre nucléaire la semaine prochaine. Donc, du coup, dans cet environnement-là, on se dit que peut-être, éventuellement, il se pourrait que les taux ne montent pas aussi vite qu'on l'avait prévu. Donc, pas mal d'interrogations. Donc le témoignage mardi et mercredi de Monsieur Powell sera très important. Le discours de l'état de l'union de Monsieur Biden sera très important. Ça, c'est un petit peu du macro géopolitico-économique qu'il faudra regarder cette semaine. Donc il y aura quand même d'autres choses qui vont essayer de nous aller distraire un petit peu par rapport à ce qu'on vit au niveau de la guerre en Europe. Et donc de l'autre côté, on aura aussi à noter en fin de semaine aussi un chiffre très important. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui là aussi seront une donnée importante que, eh bien, Monsieur Powell va devoir tenir en compte. Et puis après, on parlera la semaine prochaine du CPI et des chiffres de l'inflation, parce que ça, il faudra pas oublier que ça risque de pas changer grand-chose. Donc là aussi, on aura beaucoup de discussions. Donc d'un côté, vous avez cet état de fait géopolitique. De l'autre côté, on commence quand même à parler un petit peu de macro. On va devoir en parler. Je pense pas que ça va couvrir le bruit de bottes, mais en tous les cas, ça pourrait peut-être nous changer un tout petit peu les idées. À moins que Monsieur Poutine s'énerve vraiment. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Malheureusement, on va continuer ces prochains jours à parler beaucoup de ce sujet-là. Et les marchés vont donc se comporter principalement basés sur ce sujet-là, comme on le voit ce matin. Donc, comme je vous l'ai dit, Black Monday, ouverture mode bain de sang en Europe et aux États-Unis a priori, même si les marchés asiatiques tiennent pour l'instant. On va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais en tout cas, ce sera clairement sous le signe de la volatilité. Et souvenez-vous quand même que ces derniers jours, chaque fois qu'on a tapé les 38% de vol, tous les algos et tous les traders sont venus racheter le marché. Donc tant qu'il n'y a pas de nouvelles catastrophistes, on dirait que peut-être sur exagération, il y a de nouveau un niveau d'achat. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce lundi 28 février 2022. Demain, on change de mois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de revenir demain parce que demain matin, je serai encore là. Normalement, passez une très très bonne journée et je vous vois demain. Bye bye.